RFI, bonjour, il est 16h en temps universel, bonsoir, 18h à Paris et Madrid.
Nicolas Brousse.
Pedro reste mot d'ordre de la manifestation qui a rassemblé des milliers de sympathisants du Premier ministre espagnol. Il a dit cette semaine réfléchir à quitter son poste après l'ouverture d'une enquête contre son épouse. À Cuba, 13 hommes vont purger entre 4 et 15 ans de prison. Qu'ont-ils fait pour être ainsi punis? Une manifestation contre des coupures de courant. Détail à suivre. La dette française reste désirable au grand soulagement de l'exécutif qui craignait une dégradation de la note de la dette sur les marchés financiers mondiaux. Les militants socialistes sont donc venus en masse se rassembler à Madrid, plus de 12 000 pour demander à Pedro de rester, comme il le scandait, devant le siège du Parti socialiste. Pedro Sanchez, le Premier ministre qui devrait annoncer après-demain lundi s'il démissionne ou pas, assailli par les attaques des partis de la droite et de l'extrême droite espagnole qui ont déposé une plainte contre l'épouse de Sanchez. Le chef du gouvernement a donc pris 4 jours de pause pour réfléchir sur la suite. RFI Madrid, Diane Cambon.
Très émus, certains avec les yeux rouges d'avoir pleuré, les militants espagnols se sont rassemblés devant le siège du PSOE, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, à Madrid, pour demander à Pedro Sanchez de ne pas jeter l'éponge face à la pression de la droite. L'émotion est aussi à son comble dans les bureaux du siège du PSOE, où se tient le congrès fédéral du parti. Pedro Sanchez, qui a décidé de faire une pause jusqu'à lundi pour évaluer si, je cite, « cela vaut la peine de continuer comme chef du gouvernement » et le grand absent du Congrès, même si on ne parle que de lui. Chacun y va de son témoignage pour l'encourager à résister à la pression. Des socialistes basques ont rappelé comment ils avaient tenu tête aux menaces des terroristes de l'ETA ou comment dans l'histoire contemporaine espagnole, les socialistes avaient dû combattre le franquisme. La résistance à toute épreuve de Pedro Sanchez vient de céder mercredi dernier alors qu'un juge a accepté la plainte déposée par un syndicat d'extrême droite contre Begoña Gómez, l'épouse de Pedro Sanchez. Les accusations qui s'avèrent sans preuve portent sur un présumé trafic d'influence et corruption de la part de Begoña Gómez. Cette accusation a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans lequel, depuis plusieurs mois, l'extrême droite et la droite déversent des flots d'insultes et calomnies contre le chef du gouvernement espagnol. L'opposition, considérant que son ascension au pouvoir est illégitime à cause de ses alliances avec les indépendantistes catalans. Diane Cambon, à Madrid, pour RFI.
La Russie a lancé la nuit dernière une nouvelle attaque qualifiée de massive attaque de missiles contre des infrastructures énergétiques en Ukraine. 4 centrales thermiques ont été endommagées, ce qui a provoqué des coupures de courant. Kiev, de son côté, a ciblé 2 raffineries en Russie avec des drones. Ce conflit se joue également sur la scène économique et diplomatique. Illustration aujourd'hui en Italie où est convoqué l'ambassadeur russe. Rome réclame une clarification après la prise de contrôle par Moscou de la filiale russe d'Ariston, multinationale italienne, grande marque de l'électroménager. Une nouvelle riposte aux sanctions européennes contre Moscou. Ce que n'apprécie pas le ministère italien des Affaires étrangères, d'où cette convocation annoncée aujourd'hui. Au Chili, 3 policiers tués en zone Mapuche, le jour anniversaire de la création de cette police militaire pour cette zone où des groupes radicaux indigènes revendiquent la propriété de leurs terres ancestrales. Nous y reviendrons avec notre correspondante à Santiago dans la prochaine édition. En attendant, on reste dans la région à Cuba, de 4 à 15 ans de prison pour 13 hommes qui ont protesté contre des coupures de courant. C'est ce que révèle une ONG de défense des droits humains. Marine de la Moissonnière, à Cuba, ça ne change pas. Manifester son opposition au gouvernement, cela peut donc coûter très cher.
En août 2022, ces 13 Cubains, comme des centaines d'autres, descendent dans les rues de Nuevitas, une ville située à 600 km à l'est de la Havane. Ils entendent protester contre les coupures d'électricité interminables et réclament également de meilleures conditions de vie. Un an et demi plus tard, en janvier dernier, ces 10 hommes et 3 femmes sont jugés pour sédition, outrage, propagande ennemie ou bien encore sabotage. Hier, ils ont écopé de peines de prison ferme, de 4 à 15 ans de prison. Ils peuvent encore faire appel. À Cuba, toute personne qui manifeste prend de gros risques. La justice est particulièrement sévère. Des centaines de personnes ont ainsi été arrêtées lors des manifestations anti-gouvernementales historiques du 11 juillet 2021. Près de 500 d'entre elles ont été condamnées à des peines allant jusqu'à 25 ans de prison. En mars dernier, ont eu lieu des rassemblements à nouveau contre les coupures de courant et la grave crise économique que traverse le pays depuis la pandémie de coronavirus. Là encore, encore des dizaines de manifestants ont été interpellés. Les États-Unis avaient alors demandé au gouvernement cubain de respecter leurs droits.
Marine de la Moissonnière, au Proche-Orient, le Hamas étudie une contre-proposition israélienne pour une trêve dans la bande de Gaza assortie de libération d'otages. Le groupe palestinien avait précédemment insisté sur un cessez-le-feu permanent, hypothèse rejetée par Israël, qui insiste plutôt sur une pause de plusieurs semaines dans les combats. Riyad accueillera une conférence pour la paix grand format à partir de demain en marge d'une réunion du Forum économique mondial. Et l'AFP l'annonce à l'instant, le Hamas vient de publier une vidéo montrant deux otages israéliens enlevés le 7 octobre. Nous y reviendrons bien sûr dans notre prochaine édition. Soulagement au sein de l'exécutif français. Le Premier ministre Gabriel Attal a rappelé aujourd'hui que l'important, c'est la crédibilité de la France qui reste attractive. Le pays le plus attractif même pour les investissements étrangers depuis 4 ans. Une crédibilité que n'écornent pas les agences de notation Fitch et Moody's. Elles n'ont finalement pas modifié leurs notes sur l'état de la dette française. Paris n'aura donc toujours aucun mal à se financer sur les marchés mondiaux. Pourtant, la dette s'est aggravée ces derniers mois. La France est en effet le troisième pays le plus endetté de la zone euro, après la Grèce et l'Italie, avec un déficit public de 4,9%. Florent Guignard recevait à la mi-journée Éric Heyer, le directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, alors que Bruno Le Maire, le ministre des Finances, a promis de redoubler d'efforts pour revenir en dessous de 3% de déficit en 2027, année de la prochaine présidentielle. Eh bien, il lui a demandé si c'était un objectif réalisable.
Alors, je pense que d'un point de vue économique, revenir sur 3% des déficits d'ici la fin du quinquennat, c'est-à-dire 2027, me paraît un peu optimiste dans le sens où on vit un moment de ralentissement économique et donc c'est pas la croissance économique qui va permettre d'y arriver et les efforts qui se concentreront uniquement sur la dépense publique puisque le gouvernement ne veut pas utiliser l'arme fiscale, ben cet effort sur la dépense publique est à mon avis trop élevé, c'est-à-dire que globalement il va falloir chercher à peu près 90 milliards de réduction de la dépense publique hors effet des taux d'intérêt et donc 90 milliards en 4 ans, c'est un effort jamais réalisé. Et si on devait le faire, sans doute, ça aurait une incidence significative sur la croissance économique, ce qui amputerait les résultats sur les déficits. Donc, je pense que c'est un peu optimiste de penser y arriver, mais vous voyez, on n'est pas non plus dans l'obligation de le faire aussi vite. Et donc, c'est un peu ce que nous disent les agences de notation.
Entretien d'RFI Midi à retrouver en intégralité quand vous le voulez sur RFI.fr. Manifestation contre la vie chère au Bénin, elle était interdite ce matin. Elle a été empêchée, les forces de l'ordre sont intervenues pour la disperser à coups de gaz lacrymogène. Deux syndicalistes sont en état d'arrestation. 76 personnes ont perdu la vie au Kenya depuis mars, victimes d'inondations déclenchées par des pluies diluviennes liées au phénomène climatique El Niño qui frappe une grande partie de l'Afrique de l'Est en ce moment. Des crues éclairs ont submergé des routes et des quartiers entiers, entraînant également le déplacement de plus de 130 000 personnes, la plupart dans la capitale Nairobi, selon le porte-parole du gouvernement. Afrique Soir, première édition à 18h30, temps universel. Aux États-Unis, c'est le Middle West qui est frappé par des dizaines de tornades, au moins 80 en cette fin de semaine, et les services météo en attendent de nouvelles. 55 millions d'Américains sont concernés par des alertes météo. Ce sont des minerais indispensables pour mener à bien la transition énergétique et elle sera bénéfique pour le climat. Le lithium, le cuivre ou encore le cobalt que l'on retrouve dans les panneaux solaires, les éoliennes ou les batteries de voitures électriques. Le problème, c'est que ces minerais sont encore loin d'être disponibles en quantité suffisante. C'est pourquoi Nicolas Feldman, l'ONU appelle dans une étude à développer les investissements.
L'ONU a fait ses comptes. D'ici 2030, entre 360 à 450 milliards de dollars d'investissements sont nécessaires dans des projets miniers, car l'exploitation de ces minerais est encore loin d'être suffisante pour répondre à la demande. Exemple avec le lithium, indispensable pour produire les batteries des véhicules électriques, les besoins pourraient bondir de 1500% d'ici 2050. Les proportions sont à peu près identiques pour le nickel, le cobalt ou encore le cuivre. Ces investissements sont d'autant plus importants, note l'ONU, qu'ils pourraient en plus bénéficier aux pays en développement. C'est le cas de plusieurs États en Afrique. Le continent concentre à lui seul plus d'un cinquième des réserves mondiales dans une douzaine de métaux essentiels à la transition énergétique. L'étude cite l'exemple de la République démocratique du Congo qui est parvenue à ajouter de la valeur au cobalt raffiné et transformé localement.
Tout de suite, Mondial Sport sur RFI.